RCF.
La Bible a plusieurs voix. Vous allez entendre aujourd'hui les voix de
Marie-Pierre Desfossés,
Sylvie Chanfraud,
Jean-Luc Autrette
et Malou Lebars. Merci à Guilherme Thiénot à la technique. Nous ouvrons notre Bible, ce fameux livre de la Bible, dans les pages qui sont les pages du début. Nous sommes dans la Genèse et nous racontons toujours la saga, l'histoire du déluge. Et dans une précédente émission, nous avions donc laissé les personnages en présence, c'est-à-dire Noé, ses fils et les femmes de ses fils, donc au sortir de l'arche de Noé, et Noé a entendu et il a donc reçu le pacte d'alliance avec le Seigneur qui lui a donné un signe dans le ciel, donc l'arc dans la nuée pour dire que le Seigneur désormais ne ferait plus engloutir la terre par les eaux du déluge, étant donné que il prend acte quand même de la méchanceté des hommes, mais il y a donc ce petit reste d'humanité autour de Noé et de ses fils, ainsi que donc des spécimens de tous les éléments de la création. Et c'est comme une sorte d'autre humanité qui va pouvoir naître à partir de là. Alors, cette fois-ci, nous sommes donc à la fin de ce chapitre 9 de la Genèse et nous allons lire à partir du verset 18. Et ce petit passage va être centré davantage sur l'histoire qu'on connaît assez bien de l'ivresse de Noé, mais c'est surtout la question de ses trois fils et de ce qu'il en est de la filiation véritable, de la fraternité qui va se travailler à partir de là. Je vous propose d'entendre tout de suite ce passage donc qui va du verset 18 à 29.
Sem, Cam et Japheth étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Cam, c'est le père de Canaan. Ce furent les trois fils de Noé. C'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier agriculteur. Il planta une vigne et il en but le vin, s'enivrant et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses deux frères au dehors. Sem et Japheth prirent le manteau de Noé qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous les deux et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, sut ce qu'avait fait son plus jeune fils, il s'écria : Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. Puis il dit : Béni le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu séduise Japheth, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans et mourut.
Voilà l'histoire de Noé, cette histoire assez merveilleuse peut-être par certains côtés, mais qui va quand même essayer de nous dire quelque chose de très très profond et la question en particulier du rapport à l'origine. Alors, on nous a déjà dit dans le chapitre 8, à la fin du chapitre 8, que les Noé et ses fils étaient sortis de l'arche. Noé et ses fils étaient sortis de l'arche. Et là, on nous dit encore, verset 18, ce sont les fils de Noé qui sortent de l'arche, Sem, Cam et Japheth, et Cam est le père de Canaan. Alors, il y a peut-être quelque chose d'un peu particulier ici parce que on donne les noms des trois fils, mais ils sont pas sur le même plan. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a seul Cam est qualifié comme étant le père de Canaan.
Oui.
Il est qualifié comme père.
Et l'histoire là de Canaan, pourquoi père de Canaan? Qu'est-ce que ça nous dit dans ce cas-là? Canaan, c'est quoi?
Canaan, ça représente la terre un peu de l'ennemi. Ça sera la terre, après on verra plus loin, que ça sera la terre promise, la terre de la promesse.
Oui, mais c'est quand même la terre vers laquelle Abraham sera envoyé. La terre de Canaan, c'est-à-dire que c'est la terre de la promesse. Alors bien sûr, quand ils vont arriver dans cette terre, et ils rencontreront de la résistance, ils rencontreront donc une sorte de d'animosité, et donc on pourra dire que cette terre-là de Canaan résiste à leur présence, mais c'est quand même, voilà, donc le rapport ici, il est un peu particulier. Donc effectivement, Cam, il a une place un peu particulière parce que il est le père de Canaan. Alors on pourrait dire, il est le père de Canaan, comme on pourrait dire, il a donc une promesse de génération après lui. Vous disiez tout à l'heure, Jean-Luc, ça vous fait penser à quel personnage là, ce personnage de?
Moi, ça me faisait penser en fait à Cain, en fait quelque part, en fait. Il y avait cette allusion là au fait au personnage de Cain.
Oui, parce qu'en fait dans l'histoire de Cain on nous dit Cain il va avoir des fils, etc., des descendants, et puis ce sont des fondateurs de villes, etc. Bon, on pourrait dire la même chose en quelque sorte de Cam, mais c'est intéressant de noter peut-être qu'il nous faudra être attentif. Il est père sous un certain registre, on pourrait dire sous le registre de la vie du monde, du monde qui tourne, voilà. Et au verset 19, on dit ces trois sont les fils de Noé. De ceux-là, c'est en quelque sorte dispersé toute la terre. Qu'est-ce qu'on a comme élément à partir de ceux-là? Donc, qu'est-ce qui se passe à partir d'eux? Toute la terre fut peuplée. Ça nous paraît bizarre, peut-être, non?
Finalement, c'est quelque chose qui échappe au temps. On a l'impression qu'il y a quand même une sorte de raccourci.
Oui. Mais en même temps, oui.
En même temps, ça nous parle aussi de l'universalité.
Donc,
ils ont peuplé toute la terre.
Oui,
ça ne concerne pas qu'une...
qu'une génération. Et qu'un lieu. Donc oui, ça c'est très important, puisque de même que pour Cain, ça s'étendait à toutes les générations de la terre. Ici, c'est pareil, à partir de ces trois-là, on a à nouveau une idée d'universalité et une idée de pérennité dans le temps. Voilà, donc c'est déjà posé là. Alors, à partir du verset 20, le focus est à nouveau sur Noé. Alors, on peut dire, on revient à Noé. Noé fut le premier agriculteur, il planta une vigne, il en but le vin, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de la tente. Alors, c'est bizarre tout ça, on peut peut-être s'interroger là-dessus.
Oui, en fait, il y a un lien. Enfin, il y a un lien. On dit le premier agriculteur ou le glébeux. En fait, on retrouve fils de la glèbe. En fait, on retrouve ce lien avec Adam quelque part aussi.
Oui.
Donc ça, c'était peut-être important à souligner. Et à ce titre, d'ailleurs, il va planter une vigne. En fait, et là aussi, ce lien dont on parlait tout à l'heure avec Cain, qui était l'agriculteur, en fait.
Oui, et puis donc là, cette histoire-là de planter une vigne et de boire le vin, est-ce que le Seigneur lui a demandé de faire ça?
Non, le Seigneur ne lui a pas demandé, mais on a ici comme une sorte de commencement. Oui. Le fait de planter une vigne, c'est quelque chose qui démarre, qui commence.
Oui, on ne lui a rien demandé, mais c'est lui de sa propre initiative et finalement, après, il va se nourrir de ce qu'il a produit, même jusqu'à l'excès.
Oui, voilà. Donc, alors, est-ce que vous pensez que cette histoire-là, c'est quand même plutôt quelque chose de négatif ou bien est-ce que vous entendez quelque chose d'autre qui soit quand même plutôt positif derrière cette ivresse de Noé? On s'est beaucoup gossé de cette... de Noé, là, qu'est-ce que vous en pensez?
L'ivresse, c'est pas forcément négatif dans ce texte-là, évidemment. Ça peut montrer une certaine perte de contrôle et il n'est plus maître de lui. Et parfois, on a vu qu'il fallait que ne plus être maître de soi pour qu'arrivent certaines choses.
Oui.
On peut peut-être une fois de plus faire le parallèle avec Adam et le rapprocher de ce fameux sommeil d'Adam au moment de la création, en fait, dans un chapitre antécédent de la...
Oui, vous voulez dire au moment où il y a la vivante,
oui,
en quelque sorte, qui sera Ève, qui sera le Seigneur tiré de la côte d'Adam pendant ce fameux sommeil. Bon, alors vous voyez, nous n'allons pas trancher. En tout cas, il y a cette ivresse de Noé, mais on nous précise qu'il se découvre, il est nu et au milieu de la tente. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous précise ça, au milieu de la tente?
La tente, c'est peut-être le lieu de l'intimité, il est vraiment au centre, donc là où il pourrait être le plus à l'abri, et finalement, ce ne sera pas le cas.
Oui, alors est-ce que c'est une intimité, comme l'intimité des couples qui font l'amour et pour lesquels il importe que les enfants soient des voyeurs, là, est-ce qu'il s'agit de ça ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Parce que la tante, elle a peut-être une évocation autre dans la Bible aussi quand même, non?
Oui, dans la Bible, la tante, c'est aussi le lieu de la rencontre avec le divin.
Donc, alors peut-être qu'on a tout ça derrière cette figuration-là. Ben, on laisse ça en suspens pour le moment. On verra de quoi il en retourne. Hein. Alors, je continue au verset 22. On nous dit que Cam, le père de Canaan, donc on redit hein, qu'il est père de Canaan, il voit la nudité de son père et il en informa ses frères au dehors. Alors voilà, donc il est distingué des autres, de ses deux autres frères, Cam, le père de Canaan, il fait quelque chose. Et est-ce que ça nous paraît déjà d'emblée comme ça anodin ou bien est-ce que ça c'est lourd de conséquences de voir la nudité de son père?
Ça peut être lourd de conséquences si on tient les deux en même temps, c'est le fait qu'il ait vu la nudité de son père et qu'il l'ait rapporté à ses frères. C'est en fait les deux
oui,
qui posent un problème en réalité.
Effectivement, là, on a lu la suite du passage, donc on se rend compte que là, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de ce qui va attirer la malédiction sur lui. Mais non seulement il voit la nudité de son père, mais on dit aussi qu'il en informa ses frères. Alors ça, c'est peut-être encore autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, finalement, il ose une parole, comme s'il connaissait et qu'il avait quelque chose à en dire.
Alors donc ça semble être peut-être une information qui soit dangereuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que s'il voit la nudité du père, symboliquement, ça représente peut-être sa propre origine à lui, Cam. Et donc, le regard porté sur le sexe du père, sur la nudité du père, c'est comme si ce voyeurisme-là, et surtout le fait d'en parler, au dehors de la tente, on précise que c'est au dehors. Le fait d'en parler, c'est comme s'il il était dans la posture de maîtriser ce dont il parle là. C'est comme s'il pouvait lui-même voilà, parler en toute connaissance de cause, de sa propre origine. Et dans ce cas-là, il pourrait se croire lui-même, parfaite illusion, l'origine de son fils. Est-ce que vous voyez que c'est ça dont il est parlé là? Voilà. En fait, tout le texte va construire que nul n'est à soi-même sa propre origine. Et le texte va construire même que, ben, finalement, excepté Dieu, sans doute, personne n'est à soi-même sa propre origine. Mais alors là, pour le moment, c'est peut-être pas très évident, mais on va voir la différence de traitement, la manière dont les autres vont se comporter. Hein. Donc, à partir du verset 23, c'est Sem qui prend avec lui donc ce vêtement. Voilà, Sem et Japheth prennent le manteau de Noé, ils le placent sur leurs épaules à tous les deux et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. On pourrait dire que cette tunique-là, ou ce manteau de Noé qu'ils placent ensemble sur leurs épaules, ça vous fait penser à quoi? Ça vous dit quoi?
C'est quelque chose qui est important dans le sens où ça constitue en fait... par rapport justement à Cam, une différenciation, dans ce sens que ce manteau va les unir dans une forme de fraternité qui est d'un autre ordre en quelque sorte.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites là, Jean-Luc. Ça veut dire que le texte hébreu prend la peine de mettre qu'il place ce vêtement sur leurs épaules à eux deux ensemble. Hein, c'est très intéressant, ce vêtement, il devient ce vêtement qui est sans doute le manteau de Noé, c'est-à-dire que ça concerne leur filiation, tous les deux ensemble, recouverts de ce manteau, mais ce manteau va leur permettre d'être véritablement frères, mais en même temps de ne pas... regarder le sexe du père, parce qu'on nous dit, c'est très intéressant comme expression, qu'ils vont à reculons. C'est beau. Vous trouvez pas cette manière de dire les choses?
Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, on essaie d'imaginer la scène, c'est assez truculent d'une certaine manière. C'est étonnant comme comportement, en fait.
Oui.
C'est très respectueux.
Oui, et ça résonne aussi en nous, le manteau, avec... vous avez revêtu le Christ.
Ah, voilà, là, vous allez loin quand même, Sylvie. Mais bon, à y entendre quelque chose d'autre, hein, ce vêtement qui enveloppe, effectivement, donc c'est le vêtement de la filiation. Et parce que ils sont enveloppés dans ce même vêtement, ils sont comme façonnés à l'intérieur de ce vêtement. Ils peuvent être frères véritablement. Donc ça, effectivement, c'est une belle image que nous avons là. Alors, au verset 24, voilà, il y a Noé qui se réveille, on pourrait dire vulgairement, c'est vrai, il a cuvé son vin, mais peut-être qu'une traduction comme « il se ranime de son vin », ça serait plus agréable à entendre que de fait qu'il ait cuvé son vin. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, parce que voilà, son vin, c'est un peu trivial.
Oui. Et donc, il comprend, il pénètre ce que lui a fait son fils, le plus jeune fils, et il s'écrit « Canaan soit maudit, que Canaan soit maudit, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez là? Le jugement paraît rude quand même, non?
Oui.
Oui, Jean-Luc.
Le jugement paraît effectivement rude, mais bon, il est justifié par le fait que comment dirais-je, Cam a regardé le sexe de son père en voulant maîtriser en fait cette façon d'exister au monde qui est celle de la procréation. Et donc.
Oui, mais cette malédiction-là, c'est quelque chose qui peut nous paraître injuste, comme ça, à première vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si on a bien entendu ce qui était en jeu, eh bien, du coup, on se rend compte que tout le récit va nous dire ce qu'il en est de la fécondité dont il est parlé dans ce récit. Eh bien, ça concerne quand même le rapport à Dieu. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que lui, Canaan, on peut dire qu'il a voulu se mettre à cette place-là, et de ce fait-là, il est maudit. Alors, il n'est pas complètement coupé de ses frères quand même.
Non, il devient le serviteur des serviteurs. Pas le serviteur des serviteurs, le serviteur de ses frères en l'occurrence.
Oui, Marie-Pierre.
Donc finalement, il y a une autre manière d'être fils quand on se met au service.
Voilà, alors donc peut-être que ce n'est pas exprimé complètement sous le registre de la filiation quand même, mais la relation avec les frères, oui, demeure. Hein, la relation avec les frères demeure. Alors, je continue peut-être au verset 26, donc Noé qui continue à parler, alors il a maudit Canaan, alors vous avez vu, il n'a pas maudit Cam.
Il a maudit le fils de Cam.
Il a maudit une manière de descendre, d'être dans cette procréation-là. Hein, voilà, c'est cette manière-là d'être dans la reproduction ou d'être dans la prétendue maîtrise de ses origines. Et au verset 26, donc Noé continue, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, et que Canaan en soit le serviteur, et que Dieu… » Alors, on traduit par « séduise », mais bon, il y a peut-être aussi une autre expression qui dirait que Dieu épanouisse Japhet, lui qui va demeurer dans les tentes de Sem. Bon, d'un côté une malédiction et de l'autre une bénédiction.
On retrouve en fait le terme de tente, hein, qui est cette figure de la tente qu'on a vue au début du texte, mais qui là est prise sous la signification de tente de la rencontre quelque part. En fait, c'est en ce sens en fait qu'il y a une bénédiction vis-à-vis de Japhet qui va donc ainsi que son frère dans cette fraternité qu'on a évoquée tout à l'heure à travers le manteau vont se retrouver donc en présence du Seigneur dans cette tente.
Oui, et donc déjà vous avez vu aussi que c'est béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem. Ça dit déjà la relation, hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la relation avec ce Dieu. Donc on pourrait dire que la malédiction et la bénédiction sont les deux facettes de la même chose. Alors je vais terminer assez rapidement parce que c'est déjà la fin de notre émission. Donc Sem et Japhet seront dans cette filiation ajustée, et Canaan, lui, donc, il sera au service de cette véritable fraternité. Et il n'y aura pas une scission. Il est nécessaire qu'il y ait de la fraternité représentée par Sem et Japhet, et il est nécessaire qu'il y ait, en quelque sorte, celui qui est au service de cette fraternité. Alors, voilà, la finale, c'est donc Noé vit encore 350 ans, ce sont tous les jours de Noé, 950 ans, et il meurt. Voilà pour l'histoire de Noé qui est très belle, et vous savez qu'on trouve dans les voitures de l'église de Guy Milliot, on trouve sculpté ces scènes là, de l'ivresse de Noé et puis de ses fils à côté, donc c'est quelque chose qui même notre culture. Merci d'avoir été avec nous sur RCF.